Alors, rebonjour à tous et bonjour à ceux que je n'ai pas vus ce matin. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien? Oui, pas trop chaud? Ça va? Vous êtes bien installés? Alors, c'est vrai qu'il y a des fois où c'est un peu la panique. Je vais vous raconter une petite histoire, ce qui m'est arrivé ce matin. Nous sommes partis de la maison pour arriver à l'heure à l'assemblée en prenant Michel. Donc nous voilà partis, il était quelque chose de 9h passé, nous étions sur la route. Muriel, elle me dit, tu sais, je crois que tu as un problème avec les pneus. Je dis, non, c'est pas un problème. Non, j'ai pas de problème. Et donc, on ramasse Michel. On était à peine au bout de la rue, que d'un seul coup, mes voyants commencent à s'allumer. Pression basse, il faut s'arrêter. Je regarde effectivement, le pneu était à plat. Alors, qu'en faire? Mais vite, je dis, on va aller le gonfler, puis on va aller voir. Donc, comme on n'était pas trop loin du carrefour Market, donc je suis allé le gonfler, mais ça ne tenait pas. Donc, vite, il a fallu revenir à la maison. Heureusement, merci Seigneur, j'ai une deuxième voiture. Ouf, pauvre Michel, il a failli rater la réunion. Et donc, on prend la deuxième voiture, et nous voilà en route. Vite, repartir. Mais attends, le temps passe. Puis en cours de route, Muriel, elle me dit, j'ai ta Bible, mais est-ce que tu as ta tablette? Oups, elle est restée dans la voiture. Vite, revenir à la maison, chercher la tablette. Parce que sinon, on était mal. Et donc voilà, ma petite histoire de ce matin, c'était la panique. Mais merci Seigneur, tant pis pour la roue qui était dégonflée, qu'il va falloir que je fasse réparer. Mais nous sommes là, nous sommes arrivés à l'heure. Gloire à Dieu. Des fois, c'est pas facile. Il y a des situations qui sont là pour vous faire mettre un petit peu en colère ou irrité. Mais grâce à Dieu, il m'a donné la possibilité de garder mon contrôle et de ne pas m'énerver. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Et je rends grâce à Dieu pour ça. Non seulement d'être là, mais aussi de vous apporter ce message. Et je suis heureux de vous apporter un message qui, j'espère, ce matin, va vous encourager. Va vous encourager à quoi? Va vous encourager à aller plus loin avec Jésus, dans sa parole. Va vous équiper pour toute la semaine et pour les jours suivants. Avant d'aller plus loin, nous allons confier ce moment au Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que, comme d'habitude, je te confie ce moment. Ce moment, c'est le tien. Ce moment, c'est le moment où nous allons ouvrir ta parole, où nous allons parler de tes bienfaits, où nous allons parler de toi, nous allons parler de tes promesses. Alors je te prie, Seigneur, que nos oreilles, que nos yeux soient ouverts à tout ce que tu as à nous dire. Je prie pour que l'onction du Saint-Esprit repose sur les mots que tu m'as donné de dire. Je prie pour que la puissance du Saint-Esprit œuvre dans cette assemblée ce matin et que nous en soyons tous encouragés et bénis pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen. Alors nous allons entamer un sujet qui, je pense, est très intéressant, parce qu'il va nous parler, je crois, d'une situation que nous rencontrons plus ou moins tous, c'est-à-dire la bataille dans nos pensées. Qui n'a pas eu un jour une bataille dans ses pensées? Alors, pour cela, dans cette introduction, je vais vous inviter à ouvrir la Bible, la parole de Dieu, dans le livre des Éphésiens, un chapitre que nous connaissons bien, surtout qui est propre à Didier, et je lui rends merci pour cela. Donc nous allons ouvrir la Bible dans Éphésiens au chapitre 6 et au verset 10, et nous lirons de 10 à 17. Et voici ce qu'il est dit. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateur des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal et les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez les chaussures à vos pieds, les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, sans lequel vous pourriez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut, l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Priez en tout temps par l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Amen. Ayant lu ce passage, vous allez me dire, ça y est, on va parler de l'armure. Eh bien, je suis désolé, mais non, nous ne parlerons pas de l'armure. Bien que, il y a des points qui vont me servir à vous parler de la bataille dans nos pensées. Les points que nous allons retenir sont les suivants. Se fortifier dans le Seigneur. Se revêtir de toutes les armes de Dieu. De lutter, de prendre toutes les armes, de résister, de surmonter. Et enfin, des fois le plus compliqué, tenir ferme. Parce que comme nous le dit le verset 12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. » Tenir ferme. Porter, oui, l'armure. Pourquoi ? Une armure qui va garantir notre sécurité face à notre ennemi juré, le diable. Mais ça va aussi faire de notre mental une carapace, selon la parole de Dieu. Et Paul nous dira, dans son livre 2 Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 4, il nous dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu, pour renverser des forteresses. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Nous amenons toute pensée, pas quelques pensées, mais toute pensée. Alors bien sûr, avec un tel sujet, la bataille de nos pensées, quel en sera le contenu ? Trois points. Les causes, les effets, et comment y remédier. Toutes causes ont un effet, mais il faut savoir encore y remédier. Il ne s'agit pas là de mettre le diable à toutes les sauces, ou de le voir même là où il n'existe pas. Non, 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 non. Mais il ne s'agit pas non plus de faire l'autruche, et de faire comme s'il n'y avait rien qui existait. Il ne faut pas en ignorer les faits, car il y a bien une bataille dans laquelle nous devons nous tenir en alerte et rejeter tout ce qui n'appartient pas à la vérité de la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12 et au verset 2, nous dira « Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi ? Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. » La question est la suivante. Accepter ou rejeter ? Tel est le choix. Ne pas se laisser séduire, influencer par des mensonges. Pourquoi ? Parce qu'en étant chrétien, nous avons un ennemi juré, le diable, lui et ses démons. Il fera tout pour s'infiltrer dans nos pensées. Afin quoi ? Afin de créer la confusion, voire même le doute, pour nous faire tomber dans ses pièges. mais à la lumière de la parole de Dieu, nous avons l'arme absolue pour lui résister et même, j'irai plus loin, le vaincre. Mais voilà, pour le vaincre, il faut l'avoir identifié, savoir quelle est sa manière d'agir. Le diable est un ennemi vaincu, certes, mais tout de même, c'est un ennemi. Et c'est l'ennemi de notre âme. La signification du mot « diable » signifie « calomniateur ». Il est aussi appelé le père du mensonge, ou encore le prince de la puissance de l'air. Le monde entier est sous sa puissance. Un ange déchu, ennemi de Dieu, créateur de toute forme de mal. Il est aussi le tentateur, dira Matthieu dans son évangile au chapitre 4. Et dans la lettre de Job, on nous dira qu'il est l'accusateur. L'accusateur. Il viendra vous accuser. Il se déguise aussi en ange de lumière, nous dira Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Et si nous pensons qu'en tant que chrétiens, nous sommes à l'abri de ces malversations, eh bien, nous nous trompons. Nous nous induisons nous-mêmes en erreur. Car en fait, nous sommes sa principale cible. Son but est de nous détruire s'il le pouvait. Mais voilà, en Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs parce que, avec Jésus-Christ, il est venu pour détruire les œuvres du diable. La signification de la croix, c'est parce que quand Christ a été cloué au bois, en même temps, les œuvres perverses du diable ont été crucifiées avec Christ. Elles ont été anéanties. Il a été déchu. Il n'a aucun pouvoir sur chaque être humain si nous le refusons. Il essaiera tout de même de pénétrer dans les pensées. Comment ? En créant la confusion dans nos pensées. Il utilisera la tentation. Il utilisera l'accusation. Il utilisera la tromperie. Il utilisera la division. Et même s'il le pouvait, le découragement. Mais il ne pourra jamais nous empêcher d'être ce pour quoi Dieu veut que nous soyons. Rappelez-vous bien de cette phrase. Il ne pourra jamais nous empêcher d'être ce que Dieu veut que nous soyons. Sachez qu'il n'a aucune autorité sur nous. Par contre, en Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit, nous avons l'autorité de lui résister, mieux encore, de le vaincre. À la lumière de l'arme la plus redoutable, la parole de Dieu, la Bible, et il fuira loin de nous. Que dit la Bible à cet effet? Au psaume 8 et au verset 5, voici ce que pouvait dire David. « Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. » Alors, cette phrase veut dire dans le littéral hébreu, « Tu l'as fait manquer de peu d'être Dieu. » Et dans les anciens manuscrits, on pouvait l'interpréter de la manière suivante, des êtres divins, des anges. Donc tu l'as fait de peu inférieur à Dieu. Tu l'as couronné de gloire et de splendeur. Tu lui as donné la domination sur tes œuvres, sur les œuvres de tes mains. Et tu as tout mis sous ses pieds. Sachez qu'en Jésus-Christ, une fois que l'on a fait de Jésus son Seigneur, son Maître, son Sauveur personnel, nous avons acquis la victoire que Christ a gagnée à la croix. Ce qui n'empêche, malgré tout, qu'il essaiera de s'infiltrer dans nos pensées pour pour nous déstabiliser. L'exemple le plus flagrant, excusez-moi, se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 4, ne serait-ce qu'avec les tentations de Jésus. Comment le diable est venu auprès de Jésus pour le tenter? Vous lisez ça. Et les tentations ont été nombreuses. Et dans la première lettre de Jean, au chapitre 2, il nous est dit la chose suivante, et au verset 16. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent pas du Père, mais elle vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Si le premier Adam a chuté par la séduction, le deuxième Adam, qui est Christ, lui, a résisté. Il a résisté par une simple parole. Il est écrit. C'est l'arme absolue lorsque nos pensées commencent à s'embrouiller. Il faut proclamer la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, elle est puissante, elle est active, elle est vivante. Et il suffit de dire, il est écrit. Alors oui, je sais, vous allez me dire, oui, c'est pas facile. Eh bien, mettez-le à l'épreuve et vous allez voir si c'est pas facile. Pour ma part, ce que je suis en train de vous dire, je l'ai vécu. Je ne prêche pas quelque chose que je ne sais pas de quoi je parle. Il y a bien des points sur lesquels j'ai mis au défi le Seigneur. J'ai mis la parole de Dieu à exécution et j'en ai vu les résultats. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Avec Judas, le disciple de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait le diable? Il s'est infiltré dans son cœur, il a mis la confusion dans ses pensées. Judas était parmi les 12 disciples. Il marchait avec Jésus. Il était compté parmi les disciples. Mais voilà qu'un jour, eh bien, parce que son cœur n'était pas disposé aussi, eh bien, il y a eu la confusion dans ses pensées. Il a laissé une petite porte ouverte. Et le diable, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, blam, un grand coup de pied dedans, il est rentré dans Judas. Et ensuite, nous connaissons la suite. Avec le prophète Élie plutôt. Ça, c'est très intéressant. Le prophète Élie, voilà un prophète qui a mis au défi 450 faux prophètes en invoquant l'éternel Dieu vivant et vrai sur le mont du Carmel. Élie a lancé un défi aux 450 prophètes et qu'est-ce qui s'en est suivi? Il était rempli de la puissance du Saint-Esprit, rempli de Dieu, et là, le feu du ciel est tombé sur l'Holocauste, la gloire de Dieu est apparue, et Élie était rempli de fougue, il était rempli de la confiance de Dieu, il était persuadé. Et puis subitement, voilà que Élie a peur. Subitement, l'angoisse s'empare de Élie. L'angoisse rentre dans sa tête. Pourquoi? Parce qu'il a entendu que Jézabel et Akab, le roi de l'époque, voulaient le tuer. Alors d'un seul coup, il a pris peur. D'un seul coup, mais où est l'Élie qui remplissait la gloire de Dieu, qui a fait descendre le feu du ciel? Ce n'était plus le Élie que nous connaissions sur le mont de Carmel. Il avait la confusion dans ses pensées. Le diable est tellement trompeur qu'il fera que l'on pense que ses pensées sont les nôtres. Et ça peut arriver à chacun d'entre nous si l'on n'y prend pas garde. La tromperie est la principale stratégie de Satan. Il y a des pensées que nous devons systématiquement repousser. La peur, le doute, le stress, voire même l'angoisse. Tout ce qui est négatif va ruiner notre vie spirituelle. Et elle n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu, ce n'est pas biblique. Je le dis souvent, Christ nous a créés pour être des êtres spirituels, mais pour être des êtres vainqueurs. Nous avons des promesses sûres et certaines. de la part de Dieu dans sa parole. Et nous devons nous en approprier et surtout les proclamer. Les doutes, les peurs vont nous conduire à remettre pleinement, plein de fondements en question. Surtout lorsqu'on est dans le stress et de croire que c'est perdu d'avance. Et ce matin, mon frère, ma sœur, mon ami, quel est l'impact de tes pensées sur toi-même? Quel est l'impact? Nos pensées déterminent nos actions. L'un des romanciers britanniques les plus importants de l'époque victorienne, William Makepeace Thackeray, disait la chose suivante. Sème une pensée et tu moissonneras une action. Sème une action, tu récolteras une habitude. Sème une habitude, tu récolteras un caractère. Sème un caractère, tu récolteras un destin. Et tout à l'heure, je vous disais que je savais de quoi je parlais, et je le confirme. Car depuis ma jeune enfance, jusqu'à ce que je laisse Jésus-Christ rentrer dans mon cœur, c'est-à-dire que je l'accepte non seulement comme sauveur personnel, mais comme mon propre Seigneur, eh bien, je n'étais pas celui que je suis aujourd'hui par la grâce de Dieu. J'étais quelqu'un de très craintif, j'étais quelqu'un de très timide, j'étais quelqu'un de très introverti, qui n'osait rien, qui bien souvent m'a attiré des ennuis, d'être bousculé par mes collègues, par des à l'école. Mais voilà, un jour, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, il y a eu un miracle qui s'est produit. Parce que le Saint-Esprit a changé tout ce qui est négatif en positif dans mes pensées. Du jour au lendemain, comme pour les noces de Cana, ce qui était de l'eau est devenu du vin rouge. Je suis devenu quelqu'un de positif, non pas par ma personnalité, non pas parce que moi je l'ai désiré, mais parce que l'Esprit de Dieu d'un seul coup est venu habiter en moi. Jésus-Christ est venu dans mon cœur et il m'a montré que le diable était un menteur, que lui voulait me détruire, mais il m'a métamorphosé. Il m'a donné un verset dans le cœur, le Saint-Esprit. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit d'amour, de sagesse et de force. Le jour où Dieu est venu habiter dans mon cœur, il est venu chasser toutes mes idées négatives, mais je rends grâce à Dieu de ce qu'il a aiguisé mon oreille à sa parole, de ce qu'il m'a aiguisé aussi à disposer mon cœur à écouter. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous conduit. Le Saint-Esprit nous restaure. Le Saint-Esprit, c'est la base de toute chose. C'est celui qui nous anime. Il y a une différence entre être croyant et entre être chrétien. Beaucoup de gens se disent chrétiens, mais sont-ils croyants? Nous n'avons pas à regarder des situations d'une manière négative, mais positive. Jésus-Christ, au travers de sa parole, crée en nous donc des paroles positives. Nous avons été créés, donc, comme je le disais, pour être positifs. Et c'est au travers de la parole de Dieu que nous trouvons notre véritable identité. Là, je vais demander à Muriel de distribuer quelques pages que je vous ai préparées, que vous pourrez lire, que vous pourrez confesser toutes les promesses de Dieu. Lorsqu'un jour vous aurez des doutes, lorsqu'un jour le diable va vouloir s'infiltrer, lisez-le, proclamez-le, c'est la parole de Dieu et elle est là pour vous élever, elle est là pour vous réconforter, elle est là pour vous aider à aller de l'avant et pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Il nous est impératif de connaître quelle est notre identité en Christ. Connais-tu ton identité en Christ? Es-tu persuadé de connaître ton identité en Christ et qui tu es en Jésus-Christ? Et face à tout ce que nous pourrions rencontrer comme difficulté, Jésus-Christ nous donne la paix, le bien le plus précieux. Savoir aussi que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est contre nous. Parce que celui qui est avec nous, c'est Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le grand vainqueur, le vainqueur de la croix. Ce n'est pas pour rien qu'il a versé son sang, ce n'est pas pour rien qu'il a donné sa vie, mais c'est pour que non seulement nous soyons sauvés, mais nous soyons aussi heureux. C'est un combat spirituel que la bataille dans nos pensées. Et nous devons y faire face avec la parole de Dieu et la prière. Pourquoi ? Parce que sache une chose, mon ami, mon frère, ma sœur, quand tu pries, l'enfer tremble de peur. L'enfer tremble de peur parce que tu t'adresses à un Dieu vivant. Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Christ est ressuscité et aujourd'hui il est vivant et il vit. Il est chaque instant de chaque jour avec nous, avec ceux qui l'ont accepté. La prière est l'arme la plus redoutable que le diable craint. Parce que tu parles à Dieu, le Créateur de l'univers, du ciel et de la terre, le Tout-Puissant. Il y a une citation de Reinhard Bonnke que j'aime beaucoup et qui disait la chose suivante. La Bible dit que le diable est comme un lion rugissant. Il vient dans le noir et essaie de nous effrayer. Il essaie d'effrayer les enfants de Dieu par son rugissement puissant. Mais quand tu allumes la lumière de la parole de Dieu, tu découvres qu'il n'y a pas de lion. C'est seulement une souris avec un mégaphone. Le diable est un imposteur. Dans l'épître de Jacques, nous pouvons lire la chose suivante. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Et dans l'épître aux Philippiens, au chapitre 4, et au verset 6, nous pouvons lire la chose suivante. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et les supplications, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Notez bien qu'il est bien dit, avec des supplications et des actions de grâce. Ce n'est pas en se plaignant, ce n'est pas en larmoyant, mais c'est avec des actions de grâce que l'on s'approche de Dieu pour lui apporter notre situation. Mais en se réjouissant d'avance, parce qu'il a la solution pour nous sortir du pétrin de notre besoin dans la situation où nous nous trouvons. Parce que rien n'est impossible à celui qui croit, dit la parole de Dieu. Mais tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Jésus lui-même le dira très souvent, « Veux-tu que je le fasse pour toi ? Veux-tu ? Crois-le ? Tu le crois ? Tu crois que je peux le faire ?» Pourquoi Jésus disait ça ? Pour interpeller son interlocuteur, pour voir s'il avait vraiment cette foi qui va le faire changer, qui va l'élever. Jésus est le Fils de Dieu, il est cet homme sensationnel qui veut nous élever. Il veut nous élever. Il veut que nous soyons heureux. Il veut que nous ne demeurions pas dans l'erreur. Alors, faut-il être sans arrêt à surveiller nos pensées, savoir si cela vient de l'ennemi ou si c'est juste au cas où il nous aurait influencés? Faut-il toujours surveiller nos pensées? La réponse, elle est non. Non, ce n'est pas la peine de surveiller tout le temps vos pensées. Juste regarder si cette vérité, c'est une vérité ou une erreur. Et si ce n'est pas une erreur, rejette immédiatement la pensée non conforme à la parole de Dieu. Sinon, elle se transformera en acte. Si tu laisses une pensée te gagner, elle se transforme en acte, et bien souvent un acte négatif. Et Paul dira dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 10, de faire toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Faire toute pensée captive, peu importe d'où elles viennent. Si elles sont fausses, je n'y croirai pas, parce qu'à la lumière de la parole de Dieu, Dieu m'éclaire sur ce qui est vrai et fondamental à croire. Nous sommes appelés à renouveler nos pensées dans la parole de Dieu. Et Dieu nous aide à comprendre, ou que Dieu nous aide plutôt à comprendre quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu et que nos pensées soient les pensées de Dieu, celles qui viennent de Dieu. Amen. Seigneur, je te prie pour ce moment. Je te rends grâce pour ce moment. Je te rends grâce pour ce que j'ai pu dire au travers de la bataille de nos pensées. Mais je veux prier. Je veux prier pour cette assemblée. Je veux prier pour des personnes qui auraient des combats, qui auraient des problèmes avec les pensées, des pensées qui viennent ravager ou qui essayent de ravager. Seigneur, que par la puissance du Saint-Esprit, maintenant ces mauvaises pensées soient chassées dans le nom de Jésus. Seigneur, je te demande une grâce particulière pour toute personne qui ici serait là avec des pensées, et qui ne réussissent pas à s'en détacher. Mon frère, ma sœur, mon ami, sache que la puissance est dans la parole de Dieu et que dans le nom de Jésus-Christ, maintenant, tu es délivré si tu le veux. Merci Seigneur, merci pour ce moment, merci pour ta parole, merci pour la puissance de ta parole, merci pour le sang de Christ qui nous a lavés de tout péché, merci pour le sacrifice de la croix, merci pour tout ce que tu accomplis chaque instant de chaque jour dans chacune de nos vies, que tu es celui qui veille sur nous parce que tu l'as promis, tu es chaque instant de chaque jour avec nous et je te rends grâce, que toute gloire te soit rendue maintenant. Merci Seigneur. Amen.